Aujourd'hui, journal d'un dirigeant, décembre 2023. C'est une nouvelle formule, hein. J'ai commencé ce type d'épisode le mois dernier, donc il y a eu journal d'un dirigeant en novembre. Je te propose mon journal de dirigeant 2023. C'est une nouvelle formule que je teste, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les mails privés, à m'envoyer un mail à cedric@outildumanager.com pour me dire si cette formule te plaît ou s'il faut que j'arrête. En fait, le principe, c'est que je te partage des nouvelles de mes business dont j'ai envie de parler, et surtout le plus important, c'est les principes que j'ai appliqués, les leçons que j'ai apprises pendant le mois, et puis je te les présente, et puis je te donne d'autres trucs intéressants pour entrepreneurs ou pour managers. Donc dans cet épisode, je vais te parler de leçons que j'ai apprises chez Outils du Manager en décembre dans mes autres business, et puis je te parlerai aussi de l'opération Noël chez Outils du Manager. Tu verras que cette opération, elle est un petit peu particulière. Donc je commence tout de suite avec des nouvelles d'Outils du Manager. Le premier principe que je vais te proposer, c'est on mesure la qualité d'un manager en son absence. C'est un truc que j'ai souvent dit, mais que j'ai pas forcément illustré. Et là, les circonstances ont fait que j'ai pu vraiment tester ce principe une nouvelle fois. C'est parti d'un événement un petit peu embêtant. C'est que Adélie, donc, qui est vraiment la personne qui prend en charge le management quotidien de l'équipe outil du manager, donc Adélie, ma directrice des opérations, a attrapé le Covid, et elle a attrapé une forme aiguë du Covid, donc elle a été obligée de s'arrêter pendant 3 semaines, voilà, comme ça, en fin d'année, ce qui n'était pas du tout prévu et pas du tout évident. Et ben, on a pu voir ce que donnait ce principe, on mesure la qualité d'un manager en son absence, et j'ai pu voir qu'Adélie était probablement une très très bonne manager, puisque finalement, les personnes qui composent l'équipe ont naturellement pris le relais, ont su prioriser les fondamentaux. C'est quoi le fondamental dans une entreprise? Bah, c'est que le chiffre d'affaires ne s'arrête pas, parce que sans chiffre d'affaires, c'est comme l'oxygène pour un corps, l'entreprise ne peut pas continuer. Donc naturellement, l'équipe s'est focalisée sur ça, sur le service client, c'est-à-dire avec comme volonté que le service client ne soit pas impacté du tout par l'absence d'Adélie. Et donc ça a super fonctionné, c'est-à-dire que 80-90% des fondamentaux ont été maintenus pendant cette période où Adélie était absente. Et on a pris aussi d'ailleurs les retours de l'équipe suite à cette absence et à cette expérience de la part de l'équipe. Et les retours ont été très positifs, c'est-à-dire que nos collaborateurs sur Outils du Manager ont parlé de solidarité, d'entraide, de réactivité. Il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est mis en place, un lien qui s'est créé entre eux et qui a permis que vous ayez le moins possible à subir l'absence d'Adélie pendant cette période-là. Je t'ai parlé aussi de la grosse opération de Noël qu'on est en train de faire. Bah, c'est eux qui l'ont construit, puisque Adélie était absente, et puis moi je suis occupé dans mes autres business, donc ils ont dû être créatifs et prendre des décisions, et ils ont décidé de créer une opération de Noël. Donc cette opération de Noël, je t'en parle quand même, puisque c'est ce qui va te permettre d'accéder à des formations. Je veux dire, les podcasts, c'est super pour avoir des déclics, pour prendre de l'inspiration, etc. Mais ce qui marche vraiment, si t'es manager ou chef d'entreprise, c'est évidemment nos formations qui vont te permettre de passer à l'action. Donc, jusqu'au 31 décembre, il ne reste pas beaucoup de jours. Je ne sais pas exactement quand ce podcast, cet épisode sera publié. Jusqu'au 31 décembre, je fais le Père Noël, c'est-à-dire que tu bénéficies de 30% de remise sur toutes les formations du catalogue avec le code coupon. Et en plus, si tu participes, c'est-à-dire si tu utilises ce code coupon, eh bien, tu auras automatiquement accès au tirage au sort. Et les gens qui seront tirés au sort vont remporter gratuitement la prochaine formation qui est dans les tuyaux, qui va sortir en 2024, que j'ai pas encore finalisé, mais qui est une formation assez particulière, d'un style nouveau. Et puis, tu recevras aussi quelques petites surprises que je vais t'envoyer directement chez toi. Et ça, c'est le résultat de la réflexion de l'équipe. Donc, j'ai trouvé que c'était super qu'en plus du quotidien, l'équipe réussisse en plus à être créative. Donc voilà, bravo Adélie, bravo l'équipe, vous avez assuré. Le deuxième principe que j'ai pu aussi observer en application, c'est quand un manager repère les faiblesses d'une équipe, il les corrige. C'est un principe antifragile. Alors c'est quoi ce principe antifragile ? Bah, c'est de régulièrement soumettre notre équipe ou notre entreprise à des tests, à des stress tests, c'est-à-dire la soumettre à des chocs, et de regarder les endroits qui sont plus fragiles dans l'entreprise, c'est-à-dire qui ne sont plus adaptés à l'environnement, et de repérer ainsi les faiblesses de notre système. Et donc, pendant l'absence d'Adélie, il y a un truc qui s'est un peu moins bien déroulé que le reste, c'est les 10%, je dirais, ou les 20% peut-être, où ça s'est un peu moins bien passé, c'est sur notre communauté d'entrepreneurs, le ciel. Parce que sur cette communauté, ben Adélie est super active et ça plaît beaucoup d'ailleurs aux entrepreneurs, ils m'en parlent souvent. Eh bien oui, mais le problème c'est que quand Adélie est absente, du coup, ben l'animation de la communauté, ça se passe un peu moins bien. Donc cette absence d'Adélie, ça a permis de révéler cette chose-là, qui est une faiblesse dans notre système, et donc on va en profiter pour modifier des choses, pour faire évoluer notre manière de gérer la communauté pour qu'elle soit plus indépendante d'Adélie. Donc c'est un deuxième principe, c'est un principe antifragile que je te donne au passage, qui est que effectivement, quand l'entreprise est soumise à un choc de cette manière-là, eh bien c'est dans ces conditions-là, quand je le dis souvent, hein, quand tout va bien, tout le monde est bon. Quand ça va moins bien, eh bien ça te permet de regarder les faiblesses de ton système et de les corriger. Et puis un dernier principe, c'est vrai qu'il y en a eu un troisième, c'est que on ne reprend pas des choses qui ont été gérées en notre absence. C'est-à-dire qu'Adélie, elle a vu que, comme elle était absente, certaines personnes ont pris des responsabilités, ont fait des choses qui n'étaient pas forcément initialement dans leur mission et dans leur fiche de fonction, et elles se sont super bien débrouillées, ces personnes, en prenant ces initiatives-là. Et donc, le principe d'Adélie, ça va être de ne surtout pas reprendre des choses qui ont été bien gérées en son absence. C'est une manière de déléguer, c'est pas la seule manière de déléguer, mais c'est une manière qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, on a une des personnes de l'équipe qui lui a dit « Non, mais en fait, je veux pas prendre ta place. » Et Adélie a dit « Si, si, sur cet aspect-là, vraiment, vas-y, si tu te sens capable de faire ces choses-là, eh bien oui, tu vas prendre ma place. » Et c'est comme ça que on délègue. Donc, ces trois principes, ces trois manières de tirer parti d'une absence, que ce soit une maladie, que ce soit des congés ou que ce soit un déplacement. Je te conseille de voir les choses de cette manière-là à travers ces trois principes. Donc ça, c'est le premier fait marquant pour moi de ce mois de décembre. Un autre fait marquant, bah, c'est qu'on commence à travailler sur le budget 2024, je suppose que c'est ton cas aussi, et je voudrais en profiter pour te parler d'un live que j'ai fait avec les abonnés du ciel. On a travaillé, on a fait des exercices sur la manière de construire un budget antifragile. C'est quelque chose, moi, que j'applique depuis un moment dans mes entreprises, mais dont j'ai jamais parlé, sauf peut-être dans la formation LEL, l'entrepreneur libéré, et dont je voudrais te parler rapidement. En fait, la manière classique de faire un budget dans une entreprise, moi je viens du contrôle de gestion de la finance, eh bien c'est de prendre l'existence, c'est-à-dire de prendre ce qui s'est passé dans l'année en cours et puis l'année d'avant, et puis d'essayer de le projeter sur l'année suivante. C'est en général la manière de faire. Donc tu prends ton chiffre d'affaires, plus ou moins détaillé, par produit, par secteur, par je sais pas quoi, et t'essayes de le projeter en disant « bon, bah, les tendances, l'année prochaine, ça va être plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça ». Et puis, donc tu fais ça avec le chiffre d'affaires, après, tu évidemment, en concertation avec tes équipes, puis après, tu fais ça avec la marge, tu fais ça avec les frais généraux, et puis, du coup, tu peux projeter ton excédent brut d'exploitation, et on va dire que tes objectifs pour l'équipe vont être basés sur cette manière de faire le budget. C'est la manière classique. Et c'est une manière qui est, je dirais, dans la continuité du business. Moi, j'appelle ça la méthode bassine. C'est un petit peu de dire, bah voilà, on a une bassine, dedans, il y a notre activité, représentée par le niveau d'eau. Selon les tendances, on va avoir plus ou moins d'évaporation. Selon notre capacité à retenir le business ou les clients, on aura plus ou moins de trous dans la bassine. Et donc, ce qu'on va essayer, c'est d'éviter l'érosion et de remplir la bassine pour, grosso modo, préserver le chiffre d'affaires ou le faire progresser à peu près à la vitesse du marché sur lequel on opère. C'est vraiment une version très conservatrice du budget et c'est ce qui est le plus pratiqué. Et donc, moi, ce que j'ai proposé aux adhérents du Ciel, c'est d'avoir une approche antifragile de ce budget. Alors, pour savoir ce que c'est que l'antifragilité, je ne vais pas te donner la définition ici, parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus qui s'appelle, antifragile. Enfin, tu peux faire la recherche dans les épisodes, des épisodes où il y a le mot antifragile. Et à chaque fois, je pense que je donne une définition de ce principe de fonctionnement dans une entreprise. Mais en gros, l'antifragilité, ça veut dire profiter des chocs pour renforcer l'entreprise en permanence plutôt que d'essayer de tout prévoir. Et donc, dans la panoplie de ce que propose Nassim Taleb, qui est, le père de l'antifragilité, il y a le principe des haltères. Alors, c'est quoi le principe des haltères? Ça vient de quand il était trader boursier et il avait prouvé que plutôt que d'avoir un portefeuille d'actions, d'obligations, en tout cas de véhicules financiers qui avaient un gain espéré moyen et un risque moyen, il était plus efficace d'avoir d'un côté du curseur des actifs, ceux en plus grand nombre, sur des supports peu risqués, mais qui généraient peu de gains, genre tu mets 80% de tes actifs dans des choses où tu espères avoir 2-3% de croissance, mais où tu as aucune chance de perdre les 90% ou les 80% de tes actifs. Et à l'autre extrême, tu as des actifs extrêmement risqués qui vont être en même temps les actifs qui risquent de doubler, de tripler, de quadrupler. C'est-à-dire que là, tu joues qui tout double. En gros, soit tu perds tout, soit tu multiplies par 2 ou par 10 ou par 20. Et ça, tu ne le fais qu'avec une partie de ton portefeuille, celle que tu peux te permettre de perdre. Et donc, il avait prouvé que ce genre de portefeuille, sur le long terme, rapportait plus que le portefeuille équilibré et moyen. Et en fait, quand je t'ai parlé du budget de type bassine, en fait, on a fait un truc plutôt moyen. Et moi, ce que je te conseille, et c'est ce que je fais, moi, c'est ce qui m'a permis de faire des bons, c'est comme ça que j'ai doublé mon EBE en un an, c'est d'ajouter à ton processus budgétaire une partie que j'appelle une partie 10x. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la bassine, que tu as tout projeté en prenant les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes clients, les mêmes produits, etc., tu vas avoir une deuxième phase où tu vas dire « Ok, maintenant, si on veut multiplier le business par 10, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et là, tu vas lister des projets beaucoup plus ambitieux et comme tu pars du principe de faire x10, alors ça peut être, au lieu de x10, ça peut être x2, ça dépend vraiment de ton activité, mais en tout cas, un truc qui n'est pas possible de faire par des incréments successifs. Tu vas vraiment être obligé de sortir et de faire sortir des équipes de la manière traditionnelle de raisonner. Et donc, tu vas avoir toute une liste de budgets, de possibilités, de trucs à tester, où tu vas affecter une partie de tes ressources, et évidemment pas la partie que tu peux pas te permettre de perdre, c'est-à-dire que tu vas affecter 10% de tes ressources, peut-être 20%, mais en affectant des ressources là-dessus, tu vas peut-être trouver des débouchés, des solutions, des projets qui vont te permettre de faire exploser ta boîte, de faire exploser les performances de ton équipe. Alors, je ne vais pas te détailler exactement comment on fait. Si vous êtes intéressé, éventuellement, je ferai un épisode spécifique là-dessus. Demandez-le-moi sur les mails privés en faisant un mail à cedric@outildumanager.com. Mais en tout cas, c'est comme ça désormais qu'on fait les budgets. C'est à la fois plus efficace et à la fois plus passionnant. Parce que juste projeter ce qu'on a fait l'année dernière en mettant des incréments, c'est un tout petit peu chiant, quoi. Donc c'est sympa d'essayer de faire quelque chose de, j'irais, de plus ambitieux et surtout de plus marrant à faire. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Oui, c'est la période aussi des entretiens de progrès. Moi, mon conseil, vraiment plus que jamais, ça va être, donc quand je parle des entretiens de progrès, c'est la traduction chez Outils du Manager des entretiens d'évaluation. On propose une formation là-dessus qui s'appelle EDP, Entretien de Progrès, et qui va te permettre de transformer tes entretiens d'évaluation, de les faire passer quand même d'un truc qui est plutôt chiant à quelque chose qui est plus ambitieux, et surtout d'y faire participer tes collaborateurs. On a tout un processus là-dessus qui va permettre que tes entretiens de progrès, enfin tes entretiens de fin d'année, se déroulent de manière plus rapide, avec plus de collaboration et surtout de manière plus passionnante. Et si j'avais un conseil spécifique à cette année par rapport aux entretiens d'évaluation, entretiens de progrès, c'est vraiment bosser sur l'engagement des collaborateurs, vraiment bosser sur sur la passion du métier, sur pourquoi on est là plutôt que combien on va gagner ou comment on va s'en sortir le moins mal possible. Et j'ai une citation d'ailleurs à te proposer qui est de Ben Settle que je trouve pas mal. Il dit a bad day working on your mission is better than a good day living a boring life of mediocrity. C'est-à-dire que un mauvais jour à travailler sur ta mission est mieux qu'un bon jour à vivre une vie médiocre. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que oui, c'est vrai, choisir un métier par passion, par engagement, etc. Ça veut dire que, oui, faut travailler peut-être en s'engageant plus. C'est peut-être plus difficile, mais c'est beaucoup plus excitant que d'avoir un métier où il se passe jamais rien, qui certes est peut-être mieux au niveau matériel, etc., mais qui va pas te donner une vie aussi passionnante. Et je pense que c'est vraiment important avec tes collaborateurs d'essayer le plus possible de mettre du sens, de la passion, du développement dans ce que vous faites, parce que le grand mal actuel de nos entreprises, c'est le manque d'engagement des collaborateurs. D'ailleurs, bon alors, on est en audio, donc c'est pas évident, mais il y a une vidéo que j'ai découverte là il y a pas longtemps en faisant une formation sur les conférences, et la personne qui proposait la formation nous montrait cet extrait. Alors c'est la finale d'un 400 mètres féminin. Alors je sais pas si j'ai les références ici, mais je vais te mettre le morceau audio. Ce que je te conseille, c'est d'écouter les commentateurs sportifs, c'est-à-dire les journalistes qui commentaient cette course. Tu vas voir que franchement, les filles, elles partaient pas gagnantes, et elles étaient vraiment pas aidées par les journalistes. C'est-à-dire que quand on entend ces mots-là, faut vraiment de la motivation pour réussir malgré tout. Et tu vas voir, au fur et à mesure de la course, l'évolution, je trouve que c'est assez intéressant de ce que disent les commentateurs. Donc je te laisse écouter et puis je te reprends juste après.
Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi.
Ouais, Erzikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes.
La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas.
Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant.
Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant.
Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer.
Alors peut-être.
La Britannique est en train de craquer, Patrick.
Allez, 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 allez.
Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer.
Allez,
c'est monstrueux. Quelle ligne droite, quelle ligne droite.
Magnifique.
Mais y a pas... Elles sont championnes d'Europe.
C'est énorme.
J'ai jamais vu ça.
Non.
Patrick.
Je n'ai jamais vu ça.
C'est extraordinaire.
Mais
extraordinaire.
Regarde.
Alors voilà, c'était la finale des Jeux Olympiques de Rio en 4x400 mètres. Et voilà, je veux dire... Essaye de ne pas être comme ces commentateurs. Essaye d'être plus motivant dans ton discours. Moi, j'ai transmis cette vidéo à mes équipes parce que justement sur une de mes autres entreprises, là, je parle pas d'outils de manager, on avait quand même eu un très gros creux d'activité Et voilà, ça a été compliqué et elles ont remonté mes équipes ont remonté le truc en fin d'année. Voilà, et ça m'a fait penser à, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser à l'effort final qu'elles ont fait. Et voilà, je trouve que c'est pas toujours notre culture en France que de mettre en avant justement le fait de réussir dans l'adversité. On est un peu trop défaitiste, je trouve, d'une manière générale. Un autre exemple, tu vois, c'est on parle des Jeux Olympiques qui vont arriver dans notre pays et on est déjà en train de dire mais il faut un plan B parce que ça va pas marcher. Bon, ça c'est super français. Je dis pas qu'il faut pas un plan B, évidemment qu'il faut un plan B, mais je veux dire c'est pas l'important. L'important, c'est comment on en fait un événement formidable. Et je pense que voilà, dans nos entreprises, c'est pareil. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de cette attitude. Voilà, moi je dis oui. L'économie en ce moment, elle est pas du tout favorable. Je suis allé d'ailleurs écouter en conférence Marc Touati. Je sais pas si tu vois qui c'est un économiste que j'aime beaucoup, qui est très réaliste. D'ailleurs, lui n'est pas forcément toujours très positif par rapport à la France. Et voilà, son discours, c'était assez horrible pour la France en disant que on serait probablement en récession l'année prochaine et que de toute façon l'économie elle allait être par terre probablement au moins jusqu'à la mi-2024 voire toute l'année 2024. Bon, bah si tu écoutes ça et puis que tu rentres et puis que tu penses que tout est foutu, c'est sûr que ton entreprise ou ton équipe vont pas performer. Donc moi je pense que effectivement faut prendre en compte l'environnement. Moi d'ailleurs avec les équipes, j'ai parlé des projections de Marc Touati, mais derrière j'ai dit bon ok, maintenant comment on fait pour battre le marché, pour être plus fort que le marché. Je pense vraiment que ce genre de période c'est des stress tests et le but c'est vraiment de dire aux équipes ok, comment on profite de ces événements qu'on n'avait pas prévus et qui ne nous facilitent pas les choses pour devenir meilleur. Voilà, je pense que vraiment c'est un discours à avoir, mais aussi une participation et une confiance à avoir en nos équipes pour voir ce qu'elles peuvent proposer justement pour battre le marché. Voilà. Et puis, je voudrais terminer aussi ma réflexion sur la réussite et ce qui marche comme genre d'attitude pour un chef d'entreprise ou pour un manager. Alors moi, il y a des phrases toutes faites qui m'agacent prodigieusement parce qu'elles veulent rien dire et en plus, elles sont fausses. Donc voilà, un truc que tu entends peut-être souvent, c'est être un entrepreneur ou un manager, hein, ça marche aussi, c'est faire un marathon à la vitesse d'un sprint. Bon, il n'y a rien de plus débile. D'abord, un marathon à vitesse d'un sprint, c'est pas possible. Donc, si tu essayes de faire ça en tant que manager ou entrepreneur, tu vas finir en burn-out. Donc non, on fait pas un marathon à vitesse d'un sprint. Et d'ailleurs, la vie d'un entrepreneur ou d'un manager, c'est pas un marathon à vitesse d'un sprint. Ce serait peut-être plutôt un fractionné, mais sûrement pas un marathon à vitesse d'un sprint. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, une entreprise, elle a pas de ligne d'arrivée définitive. Ça, j'en ai déjà parlé dans les podcasts. On joue une partie infinie. On peut pas comparer la gestion d'une entreprise ou d'une équipe à je dirais une partie de foot où il y a une fin. Une entreprise, ça n'a pas de fin. Le but d'une entreprise, c'est d'être toujours vivante demain. Et donc, effectivement, elle a des échéances. Donc là, on peut dire, oui, de temps en temps, il faut faire des sprints. Là, par exemple, pour nous, en fin d'année, c'était important qu'on se remotive et puis qu'on se mette à fond pour bien finir l'année. Mais voilà, tout le monde ne peut pas être à fond en permanence. Par contre, on joue un petit peu comme s'il faut faire des comparaisons avec le sport, comme un peloton. C'est-à-dire que bah, de temps en temps, il y en a qui sont en première ligne, et puis quand ils sont fatigués, d'autres prennent le relais, etc., etc. Voilà. Bon, voilà. Je pense que voilà, l'analogie marathon-sprint pour un chef d'entreprise, je trouve qu'elle marche pas bien. Par contre, pour moi, la formule la plus efficace, c'est une détermination extrême couplée à une flexibilité extrême quant aux moyens et au temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense que si tu es leader, si tu es chef d'entreprise, il faut être le plus déterminé possible, ça c'est sûr, c'est-à-dire avoir une idée très claire de vers quoi tu vas, mais en même temps, d'être le plus patient possible et flexible sur les moyens d'y arriver. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce qui va te permettre déjà de tenir le coup, parce que et surtout de savoir avec exactitude quel est le bon moment pour agir ? En fait, le bon moment pour agir, on ne le connaît pas. On sait, on sent où on veut aller, mais les conditions ne sont pas toujours favorables. Je te donne un exemple personnel. Moi, je savais que un de mes objectifs, c'était de doubler l'excédent brut d'exploitation d'une de mes entreprises, mais et j'avais essayé de le faire avec la méthode linéaire dont je te parlais tout à l'heure, et en réfléchissant out of the box, c'est-à-dire avec la méthode, une méthode 10X, en disant ok, doubler le BE, en fait, donc si c'était par les moyens conventionnels, c'était pas possible, parce que je me disais bah pour doubler mon chiffre d'affaires, je vais mettre plus de commerciaux, etc. Mais en fait, du coup, je vais augmenter mes charges, donc ça faisait un peu un cercle vicieux, tu vois. Et puis à un moment, je me suis dit bah non, en fait, l'idéal, c'est que je trouve une entreprise que je puisse intégrer à mon groupe et qui fasse le même EBE. Et là, en un coup, je résous mon problème. Sauf que des entreprises qui correspondaient à ce que je voulais, j'en connaissais pas. Donc, je savais quel était mon objectif, je savais juste pas quand je déclencherais le truc. Et ça te donne une espèce de sérénité de savoir déjà où tu veux aller, mais juste de pas te fixer une échéance fixe. Donc, comment on se prépare à ça ? Alors, la première chose, c'est que je pense que il faut se remettre toutes les semaines, et c'est un petit exercice à faire en début de semaine, se remettre en tête ce sur quoi on est absolument déterminé. Par exemple, multiplier mon chiffre d'affaires par 10, multiplier mon OBE par 2, devenir le leader sur tel domaine, trouver une diversification dans tel domaine. Il faut que tu aies peu d'objectifs, mais que sur ces objectifs, tu sois absolument déterminé. Franchement, ça marche mieux que n'importe quelle méthode. Par contre, je pense qu'il n'est pas inutile de se fixer une date absolument exacte sur cet objectif majeur. Pourquoi ? Parce que tu risques d'être frustré, ou tu risques d'agir au mauvais moment. Donc, il faut être très clair sur où tu vas, ce qui pourrait faire exploser ton business, mais par contre, il faut se dire, il faut que je sois patient et il faut que je sois flexible. Peut-être qu'il va se présenter à moi quelque chose qui correspond à mon objectif, mais que je n'avais pas prévu. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. En fait, on dit souvent, moi j'avais lu une des premières voitures que j'ai achetées, c'était une Volvo, et bizarrement, il la vendait avec un guide qui était, c'est un mec qui avait écrit ça, qui était « Comment développer sa chance ?» Donc en fait, le mec, c'était un scientifique, il avait écrit un bouquin sur comment développer sa chance, ce qui paraît débile, puisque la chance, pour un scientifique, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont plutôt blanc-noir, 2 plus 2 égale 4, etc. Et ce qui prouvait dans son bouquin, après avoir fait pas mal d'expériences scientifiques, c'est qu'en fait, les gens qui ont de la chance, c'est surtout des gens qui sont attentifs aux opportunités qui se présentent à eux. Et en fait, ces gens-là, comme ils sont attentifs à leur environnement, comme ils savent à peu près où ils veulent aller, comme ils savent ce qui est intéressant pour eux, eh bien, quand il y a un billet de banque par terre, ils vont le voir. Alors qu'un autre qui est pas du tout dans cet état d'esprit-là, ils vont passer à côté du billet de banque, ils vont pas le voir. Et ben, c'est pareil pour un chef d'entreprise ou un manager. Quand tu sais là où tu veux aller et que tu restes ouvert à ton environnement pour saisir l'opportunité, eh bien, tu vas avoir, entre guillemets, de la chance. C'est-à-dire que tu vas avoir cultivé ta chance. Et donc, ce qui va être plus malin, plutôt que de fixer une date exacte à cet objectif, ça va être de faire aussi une autre chose sur ton agenda, c'est de le passer au crible de cet objectif et de regarder dans ta semaine, dans ce qui est prévu dans ta semaine, ce qui contribue à cet objectif ou ce qui ne contribue pas à cet objectif. Et donc d'éliminer tout ce qui ne contribue pas directement à cet objectif. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on a un objectif mais qu'on ne peut pas le réaliser, c'est à remplir nos journées de plein de petites actions sans valeur ajoutée et sans rapport avec cet objectif, et qui vont en fait nous en détourner. Alors que moi, je pense qu'il faut laisser du temps pour faire de l'exploration et pour réfléchir aux moyens. Donc en résumé, il faut que tu saches clairement vers quoi tu veux orienter ton équipe, ton entreprise, etc. L'espèce d'objectif majeur que tu t'es fixé, ou les quelques objectifs majeurs que tu t'es fixé, 3 maximum, de ne pas fixer de date à ces objectifs, de regarder ton agenda pour ne pas le remplir de choses qui ne contribuent pas à cet objectif, et de rester attentif à, aux opportunités qui se présentent, faire des explorations, etc. Alors tu vas me dire, ouais, mais le management dans tout ça. Eh bien, le management, il faut faire attention, justement, que ce ne soit pas quelque chose qui remplisse ton agenda parce que tu n'avais pas autre chose à faire. Moi, tu sais que je suis pour un système de management très, très efficace. J'ai fait un mail récemment là-dessus où je dis que le management, ça doit te prendre 10% de ton temps et ça doit être très, très organisé, mais c'est 10% de ton temps. Je pense que si tu prends plus de 10% de ton temps en management, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, les causes, elles peuvent être multiples. Tu peux me poser la question, tu me dis comment tu manages, et si ça prend plus de 10% de ton temps, je te dirai comment modifier ton management. Et ces 10%, ils vont être très intenses avec tes collaborateurs, d'autant plus intenses que tu sais quels objectifs tu recherches. Mais en tout cas, si tu laisses le management envahir toutes tes journées, eh bien, justement, tu vas perdre de vue tes objectifs. Et d'ailleurs, ma méthode d'organisation, SOR, système d'organisation réaliste, elle prévoit que tu puisses garder jusqu'à 50% de ton temps non programmé, justement pour saisir ces opportunités, pour garder du temps pour l'exploration, garder du temps pour les opportunités. Et donc, quand tu vas ajouter des choses à ton planning qui n'étaient pas prévues, eh bien, ce sont forcément des choses qui doivent servir ta détermination, ce que tu t'es fixé, et pas autre chose. Si tu es impatient, parce que moi, je l'ai vu plein de fois chez des chefs d'entreprise parce que, ou des managers, parce qu'on aime bien qu'il y ait de l'action, on aime bien avancer vite, on aime bien prendre des décisions, etc. Si tes objectifs ne sont pas clairs, en fait, tu vas gravir la mauvaise échelle et tu vas te rendre compte, une fois en haut de cette échelle, qu'en fait, tu n'as pas pris la bonne échelle. Voilà. Donc, mon conseil, c'est ça. Une grande détermination, mais aussi une flexibilité extrême sur le moment d'agir et sur les manières d'agir. Si tu veux qu'on en discute plus, je suis à ta disposition à travers les mails privés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que mes outils sont que des outils. Si tu les mets au service du mauvais objectif, ça sert à rien. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de te dire, puis des leçons que j'avais appliquées ou que mes équipes avaient appliquées ou des principes que j'avais mis en œuvre en décembre. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, me dire si tu veux plus ou moins de ces choses-là. Pour l'instant, moi, j'ai prévu de faire des journaux de bord une fois par mois. Et puis après, si tu veux vraiment toutes mes réflexions au fur et à mesure, le meilleur moyen, c'est de t'abonner au mail privé. Par exemple, ce que j'ai prévu de partager ou que j'ai déjà partagé dans les mails privés, c'est une super matrice vraiment intéressante sur comment trouver le meilleur business ou le meilleur boulot pour toi en combinant l'aspect passion, l'aspect financier, etc. Donc, je vais proposer ça dans un mail privé bientôt. Pourquoi et surtout, comment je fais pour ne pas consacrer plus de 10% de mon management ? Ça, c'est un mail privé que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, sur lequel on a pas mal discuté. Pourquoi on peut avoir l'impression d'être en burn-out, mais en fait, de ne pas l'être du tout ? Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'était un des mails privés. Voilà, moi, régulièrement, je publie mes réflexions. Souvent, c'est des trucs que j'ai expérimentés. Quelquefois, c'est des trucs des déclics que j'ai eus. Et ça passe dans les mails privés. C'est des petits mails que j'envoie plusieurs fois par semaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner aux mails privés. C'est gratuit. Et puis, pour conclure, je te reparle de l'événement de Noël, parce que c'est bientôt fini. C'est 30% de remise sur tout le catalogue en utilisant le code coupon. Si tu ne sais pas comment ça marche ou si tu ne sais pas quelle formation choisir, tu me fais un mail à cedric@outilsdumanager et on t'aiguillera le mieux possible. Et en plus, si tu commandes d'ici la fin de l'année, tu vas être parmi ceux qui vont participer au tirage au sort et 10 personnes vont être sélectionnées. Elles auront automatiquement et gratuitement accès à ma prochaine formation, qui est une formation assez perso sur le développement de la liberté. Ça, j'avais jamais fait. Et en plus, pour ces 10 personnes-là, je réserve des cadeaux. Ce sera une surprise que j'enverrai à leur domicile. Voilà, je te souhaite une formidable fin d'année. Et puis, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Plein d'énergie, plein de projets. Et puis, on continuera à discuter ensemble de management. À bientôt. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.